Oblique. Oblique. L'émission qui regarde le cinéma de travers.
Il existe une société secrète qui envahit peu à peu nos villes.
Ni des hommes, ni des animaux, mais quelque chose qui est entre les deux.
Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices, auditeurs. Alors, bonjour à toute l'équipe. Alors, vous êtes bien donc sur Oblique, la 17e. Alors, aujourd'hui, nous accueillons donc Romain Van Destichel, hein, qui est donc critique, journaliste, co-auteur d'un ouvrage sur Mario Bava, et tu es aussi membre de l'équipe de Prime Cut.
Yes.
Voilà. Et tu vas donc remplacer Yann aujourd'hui et nous parler donc de musique.
Ouais, du groove.
Du groove, donc. Et bah, bonjour Victor, toi c'est une interview aussi.
Oui, tout à fait. Philippe Fernandez, qui va nous... On va se poser des questions en regardant le ciel.
D'accord. Bah, et moi, en fait, je voulais vous évoquer un très beau film thaïlandais, un peu contemplatif, hein, qui s'appelait Anatomy of Time, et malheureusement, il ne passe pas chez nous pour l'instant. Donc je me suis rabattu sur une sortie DVD et Blu-ray, une excellente série B, L'Ambulance, qui sort chez un éditeur indépendant, qui est extra lucide. Voilà, mais tout de suite, on retrouve Justine pour l'agenda ciné de la semaine.
No one knew better than McCain, that they'd get him all the same, and they made him pay the price.
Bonjour tout le monde, alors je vous ai préparé une petite sélection des événements ciné de la semaine. Alors jeudi 12 mai à 20h, le cinéma Diagonale nous invite à une projection débat autour du film La Fabrique des Pandémies de Marie-Monique Robin. Oui, c'est pas très joyeux. Donc le film nous montre comment la déforestation, l'extension des monocultures et l'élevage industriel favorisent la propagation de nouveaux virus. Hein, voilà. La séance sera suivie d'un débat avec la réalisatrice et petit bonus, la librairie Sorams, partenaire de l'événement, tiendra une table dans le hall du cinéma. Samedi 14 mai, le Club Ciné des Anneaux du Ciné Mistral de Frontignan nous propose de venir découvrir une sélection de deux films et de deux courts-métrages qui parlent de la jeunesse d'aujourd'hui. Au programme à 18h15, projection du court-métrage Artifice, suivi du film La Brigade de Louis-Julien Petit. Entre 20h et 21h, temps d'échange et pause pizza. Et à 21h, projection du court-métrage Black Blanc Beurre, suivi de Allons Enfants de Thierry Desmézières et Alban Turley. Lundi 16 mai à 20h30 au cinéma Le Sémaphore de Nîmes, vous pourrez assister à la première du film Un visa pour la liberté, Mr. Gay Syria de Ayze Toprak. Le film fait le portrait de Hussein, coiffeur à Istanbul, qui mène une double vie entre sa famille conservatrice et son identité gay. La séance sera suivie d'un débat en présence de l'association L'Arène des Fiertés. Mardi 17 mai à 20h, rendez-vous au cinéma Utopia pour une séance unique du film Une jeunesse rome de Deborah Da Silva. Un film dans lequel la réalisatrice a suivi les jeunes de l'association Rencontrons-nous dans leur mission et leur quotidien, notamment pour l'accès à l'école des plus jeunes du terrain de la Flambère situé proche de Paris. La projection sera suivie d'une rencontre avec la réalisatrice Deborah Da Silva et l'équipe de Rencontrons-nous. Et enfin, jeudi 19 mai à 17h, la médiathèque Jean-Jacques Rousseau projettera le film Himself He Cooks de Valérie Berthaud et Philippe Vidges. Ce magnifique film sans parole capture la chorégraphie spontanée de centaines d'hommes et de femmes préparant chaque jour 100 000 repas pour nourrir gratuitement les visiteurs du Golden Temple d'Amritsar, situé au nord-ouest de l'Inde. La projection a lieu dans le cadre du cycle Pratiquer d'écran partagé et lu et approuvé et sera suivie d'un débat. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous laisse avec Manu pour la suite et vous dis à très bientôt.
Merci Justine. Et tout de suite, donc L'Ambulance, à ne pas confondre avec le film de Michael Bay.
«
la trajectoire de Larry Cohen, hein, un cinéaste qui ne doit pas dire grand-chose là aux auditrices, auditeurs. Enfin, il est assez connu, mais il faut être quand même un peu amateur du genre. Hein. Elle est pour moi atypique, hein, cette trajectoire. Hein. Il n'aura jamais connu de reconnaissance, hein, quand on est à vie, un respect souvent pour ses scénarios astucieux. Alors pourtant, l'importance du cinéaste dans la culture populaire américaine n'est pas à négliger. Bah, c'est lui qui a imaginé, qui a créé le personnage de David Vincent, hein, celui qui les a vus dans la série Les Envahisseurs. Il fut aussi le premier réalisateur blanc à profiter de l'engouement pour la Blaxploitation pour emballer deux petits classiques, Le Parrain de Harlem et Bones. Il est surtout l'auteur de quelques pépites terrifiantes, hein, drôles et inventives, du cinéma de genre tel que Meurtre sous contrôle, Le Monstre est vivant et Épouvante sur New York. Alors 18 longs métrages et 3 téléfilms au compteur et très peu de ratages finalement, alors hormis peut-être Ma belle-mère est une sorcière, et qui est pas terrible. Hein. Et jalonne donc une carrière exemplaire. Le cinéma de Larry Cohen, hein, peut se définir par cette appétence intuitive pour les sujets fondés, alors sur des hypothèses délirantes, partant souvent d'un principe de supposition, alors qui sont alimentés par des légendes urbaines. Alors parfois avec des si, on crée des miracles, la preuve, et si un homme se retrouvait enfermé dans une cabine téléphonique, ça c'est le scénario d'un film qui est Phone Game, et si ta femme accouchait d'un monstre, ça c'est Le Monstre est vivant, et si un homme se mettait à tirer au hasard dans la foule, et c'est Meurtre sous contrôle. Alors pareil pour l'ambulance, et si après un malaise, une ambulance vous emmenait, alors non pas pour vous sauver la vie, mais pour vous l'ôter. Alors donc, Josh Baker, hein, le héros, dessinateur new-yorkais pour Marvel, d'ailleurs on croise vite fait Stan Lee, croise une jeune femme, Cheryl, en pleine rue, au milieu de la foule. Alors il tombe amoureux, il la drague, hein, il a suffisamment le béguin, en tout cas pour lui faire la cour. Alors une drague spontanée qui la charme, coup du sort, elle s'effondre d'un coup sur le sol et une mystérieuse ambulance la récupère et l'emmène à l'hôpital. Josh décide de la voir dans l'établissement le plus proche qui, surprise, assure n'avoir eu aucun patient correspondant au profil. Après des recherches infructueuses en faisant le tour des hôpitaux, Josh finit par mener son enquête, la police étant dubitative quant à ses dires, le soupçonnant même de ne pas être étranger à la disparition de Cheryl. Alors, le syndrome David Vincent a encore frappé, sauf qu'il n'a pas vu des extraterrestres, mais des ambulanciers au comportement suspect. One man's obsession with a beautiful woman. Somebody call an ambulance, okay? Is about to become a nightmare. Will you look at this computer printout? All our missing persons reports in the last 2 weeks. We're all of New York City. There are others? Yes, there are many others. This is her lieutenant. What exactly do you think happened? I don't know. Did you do something to that girl yourself? One of those psychopaths who kills girls and goes to the police to tell stories? I don't know anything about your dead woman in the park, okay? I was just trying to get away from them. Now he must find the truth. Josh, I'm trying to help you! They're gonna kill me! An ambulance that picks up New Yorkers and they're never seen or heard from again. A vehicle of mercy that's really a murder machine. Well, what do you do? What is wrong with you? If you found the ambulance, he's in trouble. Eric Roberts, James Earl Jones, The Ambulance. I promise you, you're gonna be in perfect health before you die. Isn't that nice? On reconnaît la plume de Larry Cohen, hein, qui accouche souvent de scénarios brillants et malins en phase avec nos peurs contemporaines. Alors, moins délirant peut-être que Meurtre sous contrôle ou Épouvante sur New York où le tueur était quand même un ptérodactyle largué en pleine ville, ce qui est quand même pas courant. L'ambulance rend un hommage sincère à Alfred Hitchcock en reprenant la construction narrative de La mort aux trousses, hein, plaçant donc un quidam au cœur d'une histoire qui le dépasse, à la différence qu'au lieu de subir comme Cary Grant, Josh, en quête de vérité, cherche les ennuis en mettant son nez là où il ne devrait pas, tout cela pour une fille qui lui a tapé dans l'œil. Alors contrairement à sa réputation de metteur en scène brouillon aux idées bouillonnantes, il n'en reste pas moins un vrai réalisateur, hein, attentif à la forme, même si celle-ci est moins visible visibles que certains virtuoses. Évidemment, Cohen n'est pas un styliste. Hein. En revanche, son approche filmique est souvent pertinente, notamment par son style documentaire. Hein. Les premiers plans de l'ambulance sont éloquents à ce titre, hein, par commodité budgétaire sans doute. Larry Cohen vole des plans de rue à l'arrache, filmant la foule avec beaucoup de réalisme. Alors, toutes les séquences nocturnes aussi, beaucoup plus graphiques, utilisent à merveille le décor urbain. Alors, transformé pour l'occasion en un espace angoissant d'où peut surgir d'un instant à l'autre le monstre clinquant à quatre roues. Alors, l'ambulance du titre, elle est filmée comme une entité organique. Alors, même si ce n'est que de la tôle et un moteur, avec un look très années 50, rappelant la fameuse Christine du film de John Carpenter. Alors, tourné en 90, le film bénéficie aussi, alors il faut quand même le noter, de la présence incroyable d'Eric Roberts, l'acteur qui a peut-être la filmographie la plus longue, en tout cas une des plus longues de l'histoire du cinéma. Je ne sais plus, il doit arriver à 400-500 films, voire plus.
Je crois qu'il arrive à en faire 20 par an.
Oui, mais même il y a des années où il était à 30-35, enfin, c'est un truc de fou.
Que de la qualité.
Et que de la qualité, hein, que des voilà. En tout cas, bah ça, voilà, une carrière très très longue. Et puis, bah il est très bien dedans en fait. Hein. Donc efficace et ludique, souvent très drôle, sans verser dans la parodie. L'ambulance va remplir son contrat, celui d'une formidable série B à l'ancienne qui déborde d'amour pour le cinéma de genre. Avant-dernier long métrage pour le cinéma, hein, pour Larry Cohen, le film reste, alors malgré à l'époque des critiques très mitigées, l'un des plus gros succès du cinéaste dans les salles françaises. Le film donc sort en Blu-ray, DVD chez Extra Lucide, hein, éditeur indépendant, à soutenir absolument au même titre que ses collègues comme Le Chat qui fume, Artus Film ou Ecstasy of Film. No one knew better than McCain that they get him all the same and they made him pay the price. Allez, c'est à toi, Victor.
Oui, alors du coup, comme je vous disais, quel lancement fabuleux. Comme je vous le disais, donc du coup, aujourd'hui, on va s'intéresser au réalisateur Philippe Fernandez, qu'on a eu la chance de rencontrer au cinéma Utopia il n'y a pas très longtemps. Alors, c'est le réalisateur de deux longs métrages, pas mal de courts, mais les deux longs métrages sont trouvables assez facilement. Donc du coup, Léger tremblement du paysage et Cosmodrama, des films assez uniques, faits un petit peu de bricolage. Il y a un côté art plastique assez évident dans le film. Le tout souvent avec des dialogues qui oscillent entre philosophie et dialogues scientifiques, souvent drôles, mais qui permettent en fait aux personnages du film de remettre en question l'univers au sein duquel ils évoluent. Dans Léger tremblement du paysage, cette remise en question, elle arrive après le passage d'une météorite qui va s'écraser dans un village et tous les habitants vont donc remettre en question leurs habitudes, leur manière de faire. Et dans Cosmodrama, on suit l'équipage amnésique d'un vaisseau spatial qui passe le film entier à réfléchir à qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire à bord. Cet entretien donc va être diffusé en deux parties. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la carrière de Philippe Fernandez, de son premier court-métrage jusqu'à la réalisation de son deuxième long. Et dans la semaine prochaine, donc du coup, on s'intéressera à ce qui sera, on l'espère, son troisième long métrage et qui donc s'intéresse à une secte visionnaire. Vous verrez, ce sera cosmique. Voilà, première partie.
Alors, en allant très rapidement, donc moi je viens d'une formation artistique, j'ai eu aussi un travail artistique sous un autre nom dans les années 80. Je faisais des performances, des installations et du son aussi. Et de la vidéo, parallèlement, en mettant de la vidéo dans des installations ou en accompagnant mes concerts de musique de vidéo. Et puis petit à petit, je me suis rapproché du cinéma et donc assez tardivement. C'est-à-dire que du coup, j'ai fait mon premier court-métrage à 40 ans, pratiquement. Et c'était à l'occasion d'un concours de scénario pour le centenaire du cinéma. Donc c'est l'occasion géniale de passer au cinéma, surtout qu'à l'époque faire un court-métrage c'était pas si évident, il fallait le faire en argentique, la vidéo n'existait pas, c'était pas reconnu dans les festivals en tout cas si elle existait. Voilà. Et donc j'écris un court-métrage, mais je ne sais pas trop quoi faire par rapport au cinéma, et là ma compagne de l'époque me dit si je repense à la caverne de Platon, donc, ça c'est une bonne idée, mais j'avais totalement oublié ce texte de Platon, plus ou moins entrevu en terminale, en philo. Donc je me suis replongé dans la caverne et je trouvais que ça faisait effectivement un très bon court-métrage possible pour le centenaire du cinéma. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier court-métrage, sachant qu'entre-temps, le concours avait disparu et donc j'ai dû le financer moi-même. Mais comme j'étais enseignant à l'époque, même si un court-métrage à l'époque coûtait très cher en laboratoire, etc., j'avais pu l'auto-financer. Alors il se trouve que, alors là, il faut faire un flashback, en fait, il se trouve qu'avant de faire ce court-métrage donc en pellicule, j'avais tenté ma chance, je crois, un an avant, en 94, en faisant un long-métrage en vidéo sur les conseils lus dans les cahiers cinéma de Godard, qui disait mais ils nous embêtent, tous ces jeunes gens, vouloir de l'argent pour faire des films, ils ont qu'à s'acheter une petite caméra japonaise et faire leur film comme ça. Donc je me dis bon, ça c'est une bonne suggestion, donc je vais aussi faire mon film en vidéo, sachant que j'avais une bonne pratique des caméras vidéo, du montage vidéo, etc. déjà à l'époque. Donc j'ai fait un long métrage, et ce long métrage, parce qu'il était fait en vidéo, n'a pu être projeté nulle part. Après donc être passé par la caverne et l'argentique, j'ai pu me sentir un peu plus réalisateur. J'avais deux autres courts-métrages, donc Connaissance du monde, Réflexion. Et j'ai refait le film que j'avais fait en vidéo, je l'ai refait en argentique, et c'est devenu Léger tremblement du paysage. C'est le même film, en fait, c'est une espèce de remake de mon propre film. À peu de choses près, il avait déjà été écrit quasiment 10 ans avant, en fait.
Au départ, ce sont deux jumeaux, Jules et Jim. Bon, Jules reste à terre. Et Jim, lui, il part dans une fusée. Et il va très très vite. Et comme il va très vite, eh ben, le temps qui est élastique, lui, il s'allonge. Et donc, Jim, il part pour un voyage de 2 ans. Donc, quand il revient, eh ben, il a 2 ans de plus. Et Jules, lui, il a 10 ans de plus parce que, en fait, sur la Terre, le temps a continué normalement. Et le voyage a duré 10 ans. Donc, Jim n'a que 2 ans de plus et son frère, lui, a 10 ans de plus. Ce qui fait qu'à l'arrivée, ben, ils ne sont plus jumeaux. Enfin, si, ils sont toujours jumeaux, mais ils n'ont plus le même âge.
Je me suis amusé dans ce film-là à en faire un peu une sorte de mon testament d'artiste plasticien raté, si je puis dire, méconnu en tout cas. Et donc, effectivement, mes installations, c'était des tas de pneus avec des vieilles machines à laver dedans, donc exactement ce qu'on voit dans Léger tremblement, éventuellement avec des animaux qui se baladaient à l'intérieur, mais comme c'était interdit dans les expositions, justement filmé, c'était on va dire la dimension vidéographique, vidéo, c'était des vieux poses de télévision avec comme ça pas mal d'images d'animaux qui se baladaient un petit peu comme ça, qui erraient dans ces montagnes de pneus. Donc voilà, je me suis amusé à placer dans ce film, mais ça servait à la narration puisque les deux enfants construisent comme ça dans la décharge une fusée. Je me suis amusé à placer dans ce film ce que je me plaisais à faire plastiquement juste auparavant. Puis ça m'a libéré, comme ça je le fais plus, et voilà, c'est fait, la chose est faite, le chapitre est clos. Léger tremblement, c'est effectivement, on est sous les nuages, en fait, puisqu'on les personnages regardent beaucoup les nuages et imaginent ce qui se passe au-delà. Et puis il y a une météorite qui vient voilà, donner une espèce de message comme ça du cosmos. Là, ça peut arriver, une météorite peut tomber, le cosmos vous parle, voilà, et secoue un peu la Terre. Et effectivement, donc dans le projet après, ce qui m'a intéressé, c'est d'emmener les mêmes personnages qui à l'époque devaient être joués par pratiquement les mêmes acteurs, en fait, et bien les amener donc au-delà des nuages et voir comment c'était en vrai le cosmos qu'ils avaient fantasmé avant. Comment dire, c'était une façon de faire de la science-fiction. Moi, à l'époque, je n'avais pratiquement, j'avais aucun goût pour la science-fiction, ni écrite, ni cinématographique, souvent ça m'ennuyait beaucoup, à part quelques chefs-d'œuvre, Solaris évidemment, Stalker peut-être, mais Solaris oui bien sûr, un film majeur, 2001 ça passe, à part la fin. Voilà. Mais sinon, j'ai pas d'intérêt personnel. Donc l'idée, c'est justement de faire ça, de faire... parce que, par contre, mon sujet de prédilection à travers les œuvres plasticiennes et puis à travers mes courts-métrages et les tremblements, c'est quand même le cosmos, notre rapport à l'espace, à l'univers, notre rapport à l'univers. Il y a d'autres civilisations possibles, voilà, qui s'en seraient plus ou moins bien sorties. Donc ça, c'est mon thème principal, celui qui m'excite le plus, qui me donne envie d'écrire des choses. Tout ce que je lis là-dessus me donne envie de faire des films et de mettre en scène. C'était quoi la question?
Est-ce que du coup tu étais inspiré par la science-fiction?
Et donc, pour parler de ça, le véhicule est formidable, c'est la science-fiction pour parler de notre rapport à l'univers. Mais sans goût pour, ou en tout cas en détournant le genre, donc en m'inspirant de ce qu'il y a de plus, de plus à la fois accessible, vulgaire au sens de la vulgate, pas vulgaire en soi, mais parce que voilà, c'est quelque chose qui est populaire. Et donc je suis un peu parti, je me suis un peu inspiré de Star Trek, que j'avais jamais vu en fait réellement, comme, parce que c'était pas ma génération, ni quand c'est passé à la télé américaine, ni après en France, je regardais plus la télévision, j'étais étudiant en art, etc. Et donc voilà, mais bon, j'avais vu un peu des images, je voyais à peu près le style. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était de partir d'une forme assez déconsidérée, c'est-à-dire le feuilleton télévisé, plutôt mal fait, avec du décor en carton-pâte, de reprendre un petit peu ces codes-là, de la télé de science-fiction, et de l'amener vers quelque chose de plus métaphysique, même que pataphysique, parce qu'il n'y a pas vraiment d'absurde, il y a des vraies questions, et que je me suis plus à écrire et à mettre dans la bouche des personnages. Par exemple, des trucs qui m'excitaient, que je voyais dans les revues de science aussi, de vulgarisation de l'époque, notamment Science et Vie. Je crois que j'ai lu 3 ans de Science et Vie pour écrire Cosmodrama. Mais par exemple, la question de l'évolution de l'univers et de la sélection naturelle des univers, mais c'est un truc qui est super excitant pour l'esprit. Et ça, j'arrive à le mettre dans les propos de mes personnages, puisqu'à un moment, donc, ils se demandent si les deux astronomes, enfin l'astronome et son double, se demandent si... arrive à prouver aux autres que les univers qui produisent des trous noirs sont justement les univers qui sont constitués de matière et de matériaux de base qui sont profitables à la vie, qui aboutissent à la création de la vie, notamment le carbone, l'hydrogène, etc. Donc je trouve ça absolument génial. Et donc ces astronomes prouvent aux autres personnages du film que donc un univers qui peut produire des trous noirs, eh bien, va, par l'intermédiaire des trous noirs, créer d'autres univers qui produisent eux-mêmes des trous noirs, etc. Et donc les univers se multiplient. Et donc il y a une sorte de sélection naturelle des univers, que les univers qui ne produisent pas de trous noirs et pas de vie, bah, disparaissent. Et donc ça, c'est des trucs qu'on trouve dans Science et Vie, qu'on peut acheter à Auchan quand on fait ses courses. Il faut qu'on achète ses yaourts, on achète un Science et Vie et on tombe là-dessus. Et voilà, moi, c'est ce qui me donne envie de faire des films. Donc c'est moins la science-fiction, c'est plutôt ces idées sur l'univers qui m'excitent et qui, par contre, qui trouvent leur très bon véhicule dans la science-fiction.
Donc si vous voulez voir les films de Philippe Fernandez, c'est assez facile, vous pouvez vous les procurer au cinéma Utopia puisqu'ils sont disponibles sur le catalogue de Vidéo en Poche pour la modique somme de 5 euros. Il vous suffit donc de prendre une clé USB et de l'amener au cinéma et de nous demander le film Léger tremblement du paysage, qui est également disponible en DVD, et Cosmodrama, si vous voulez le voir directement sur Internet, il est en VOD sur le site de la 25e heure.
Merci Victor. Et bien pour finir, nous retrouvons donc Romain pour l'audioblique, puisque c'est le titre de l'émission, avec autour des musiques de films, dans les films d'horreur et le groove.
Ouais, d'horreur et plus si affinité. Donc cette chronique, j'ai choisi de l'intituler « Tu le sens, mon groove ?» Donc vous voyez où je veux en venir à peu près, on parlait des films d'horreur, mais il n'y a pas que les films d'horreur. Si je vous dis « Ce flingue est le plus puissant de la création », vous pensez à quoi? Vous pensez à qui? Vous pensez à Alain Chabat, bien sûr, mais pas uniquement à Alain Chabat. Alors après, ça s'emballe un peu. Ça s'appelait Scorpio's Theme, c'est de Lalo Schifrin. C'est sur une scène qui commence à San Francisco par un bel après-midi. Une jeune femme se baigne dans une piscine sur le toit d'un immeuble et un homme l'observe de loin, probablement du toit d'un autre immeuble, encore plus haut. Ce que voit cet homme, ce voyeur, nous le voyons aussi, nous spectateurs, spectateurs-voyeurs, scopophiles, il observe cette jeune femme en pleine baignade à travers la lunette de visée d'un fusil. De là à parler d'un substitut phallique, mais bon, le côté psychanalytique des films, moi je suis pas trop pour. Un coup part, la jeune femme meurt, cut. Ce meurtre, c'est le premier meurtre perpétré par Scorpio, le tueur cynique de Dirty Harry, réalisé par Don Siegel en 71. Donc tout le monde connaît Harry le salopard, son alter ego chabaesque, celui qui pue peut-être, mais il a un gros flingue. Ok, donc un flic fasciste ou prétendument fasciste, et ce ne sont pas les récentes prises de position de Clint Eastwood en faveur du président, enfin de l'ex-président Trump, qui vont venir invalider cette thèse, mais ça c'est une autre histoire et on y reviendra peut-être dans une autre chronique. Sur Dirty Harry, hein, parce que sur Trump c'est fini, là. On va pas s'égarer non plus. Donc, je disais, un flic fasciste, ça n'a pas à voir, grand-chose à voir a priori avec le groove. Eh bien, détrompez-vous, ça a beaucoup à voir. En effet, si le mot groove renvoie tout de suite, dans ce qu'il est convenu d'appeler l'inconscient collectif, à une sorte de trémoussement limite obscène de toute partie du corps qui se situerait sous le nombril, oui, y compris les genoux, mais bon, ça aussi, on y reviendra plus tard sur le potentiel érotique des genoux dans une autre chronique encore. James Joyce, si tu nous entends, je t'aime plus que ma propre vie, sache-le. Le mot groove dans les dictionnaires a ce sens. Sillon, coulisse, creux, rainure, fente. Je vous vois venir avec vos gros sabots. Potentiel érotique, fente, etc. Aïe, aïe, aïe. Hashtag MeToo, les gars. Mais que vous avez l'esprit mal placé, vous répondrai-je. Vous eussiez pu m'interpeller sur le mot sillon, qui lui renvoie au sillon du disque vinyle. Cette merveille de technologie, de chaleur dans la vibration sonore. Vous le voyez là, le potentiel érotique? Cet ancêtre du CD. Le CD que les maquignons de l'industrie musicale, et j'insiste sur le terme maquignons, des années 80 nous vendirent à grand renfort de publicité comme la panacée universelle en matière de qualité sonore. Que nenni, des conneries, leur répondrai-je. Mais nous reviendrons aussi dans une autre chronique sur la grande arnaque du numérique et le potentiel érotico-musico-jubilatoire des 33 tours noirs et suaves galettes des rois, que dis-je, galettes des dieux. Donc, le groove. Pardon. Un bon thème musical dans un film peut se décliner de moult manières. Afin de servir la narration, en amenant l'inconscient du spectateur, ou le spectateur inconscient si ce dernier a payé pour voir Avengers ou Spider-Man ou n'importe quelle autre soupe de Marvel, à identifier un personnage important dans un film. Par exemple, si je vous dis « pom 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 », vous pensez à « ah non, pas Beethoven, merci Stevie, mais à Dark Vador ». Ok, donc un terme bien utile pour traumatiser vos enfants à vie, au même titre que celui des Dents de la Mer. Remarquez, dans les deux cas, ils vous lâchent les basques. Avec Dark Vador, ils bouffent leur brocoli, et avec les Dents de la Mer, ils font des pâtés de sable, et vous pouvez glander tranquillou sur la plage sans craindre de la noyade, vu qu'ils n'y foutront plus un pied dans l'eau de l'été, sachez-le. Donc, Jaws, essayez, ça fonctionne. Mais me direz-vous, toutes les musiques de films ne fonctionnent pas sur ce modèle, et tous les thèmes importants de films ne correspondent pas à un ou à des personnages, c'est vrai. Mais en l'occurrence, le thème que vous venez d'entendre est intitulé Scorpio's Theme. Il caractérise le personnage principal à égalité avec Dirty Harry du film éponyme. Et c'est là que le mot groove prend son importance. Ce thème, c'est un thème qui groove, qui bouge, qui donne envie de bouger son boule. Mais pourquoi donner une pareille identité sonore à un personnage cynique, à un personnage sadique, veule, probablement impuissant, à nouveau on retombe dans la psychanalyse de bazar, mais bon, quand même. Eh bien, soit vous demandez à Lalo Schifrin, ça va être dur, soit vous continuez à écouter mes élucubrations. À mon avis, deux influences cinématographico-musicales ou musico-cinématographiques s'imposent. Les films dépeignant des meurtres sanguinaires, pour le groove donc, et les films à caractère pornographique. Eros et Thanatos en quelque sorte. On revient toujours à ça de toute façon. Le porno, donc. À peu de choses près, le plus vieux genre cinématographique au monde, puisque de tout petits films, ce qu'on appelait des loops, des boucles, tournait déjà dans les bordels dès la naissance du cinématographe. Si je me réfère au même dictionnaire que tout à l'heure, le mot groove peut aussi signifier rythme. Or, de rythme, le porno a besoin, c'est une évidence. Vous imaginez, vous, un porno sur du Christophe Maé ou du Vincent Delerme? Pouah, c'est un coup à oublier de jouir. Les scènes de sexe sont dans les films pornographiques des années 60 et 70, et un peu 80, mais la vidéo, si elle a tué les stars de la radio, a aussi tué le cinéma X. Donc, étaient très souvent accompagnés de musiques supra-groove qui, lorsqu'on les écoute sans les images, et assez souvent, finalement, c'est bien de les écouter sans les images, vu la qualité cinématographique de pas mal de ces œuvres, vous donne envie de sauter partout. Vous pensiez que j'allais dire quoi? Hein? Sauter partout. J'en veux pour preuve le bien titré Greg's Groove Thing, qu'on pourrait traduire en français par « Le truc groovy de Greg ». Je vous laisse imaginer ce que peut être ce truc en écoutant la bande qui suit et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette chronique. Enjoy!
Et donc c'est la fin de l'émission. Donc on se retrouve tous les quatre la semaine prochaine. Mm-hmm. Alors merci Justine, merci. Victor, Romain, et puis Anna à la technique. Et puis même si on n'a pas parlé de films sortis en salle, on va quand même remercier Utopia et le Diagonal, le Divergence, et puis Extra Lucide Film. À la semaine prochaine.
Merci à Eric Roberts.
Et merci à Eric Roberts, s'il nous entend.
Extra Lucide, Patrice
voilà.
Véry.
Patrice Véry et Karine. Bah, voilà.
Oblique. L'émission qui regarde le cinéma de travers.